Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Et on est de retour pour une belle heure de direct, de live avec les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie qui viennent de débuter. On est dans la Q1, Jean-Luc Roy nous fait vivre ça. La deuxième mi-temps de Dijon-Saint-Etienne, première journée de Ligue 2. Et on n'oublie pas le cyclisme, le Tour de France, femme, la sixième et la septième et avant-dernière étape de ce Tour de France, femme et la classique Saint-Sébastien au Pays Basque. Le foot, ça vient de repartir à Gaston Gérard, c'est le premier match de cette saison de Ligue 2 avec une affiche qui sentait encore la Ligue 1 il y a quelques saisons. Dijon opposé à l'AS Saint-Etienne. Fred Joly à Gaston Gérard.
7 minutes de jeu en seconde période et quelle belle rencontre. Justement Arnaud, on dit les matchs de début de championnat, on s'ennuie un petit peu, ça manque de rythme. Là, c'est incroyable, vraiment une belle rencontre et les Dijonais mènent 2-0 et auraient pu aggraver le score avec deux énormes occasions, avec tout d'abord Le Billon qui a débordé, qui a souhaité s'en centrer vers Nassi qui était à gauche. Nassi qui a frappé, c'est passé juste à côté, puis Le Billon qui a profité d'un bon travail de Rocha qui est venu déborder, centrer. Le ballon est passé devant le but de Green et Le Billon a touché le ballon mais a manqué le cadre. Il était vraiment plein axe, il était tout seul. Le ballon est passé à quelques centimètres du poteau stéphanois, mais on ne peut pas en vouloir à Le Billon qui a fait un énorme travail en première période et qui pour l'instant est en train de montrer qu'il a encore des jambes en ce début de seconde période. Des Dijonais qui dominent, mais bien sûr une équipe de Saint-Etienne qui n'est peut-être pas encore tout à fait prête, hein. C'est vrai que Laurent Battez doit faire avec pas mal d'absents, hein, dans son effectif. Chambourg, entre autres, Moukoudi, Abi et Mouefek. Enfin, il manque du monde, sans doute encore quelques petits réglages. Enfin, ce qui n'enlève rien à la performance de ces Dijonais, qui, emmené par un Omar Daf qui a fait un bon travail de préparation, a mis sur la pelouse une équipe en pleine forme et en jambes et qui mène 2-0 après 53 minutes à Gaston Gérard.
Fred Joly, depuis la Côte d'Or, le cyclisme, des nouvelles de Tadej Pogacar sur la classique Saint-Sébastien, Arnaud Souk. On va retrouver Arnaud dans un instant, en direct du Pays Basque pour cette course automobile. Arnaud, oui.
Course automobile.
Course cycliste. Parce que j'ai un œil sur la F1, c'est pour ça que je me fais. Tu as bien fait de me reprendre.
Je vois bien tes allures.
plusieurs coureurs qui sont en difficulté. On a parlé de Tadej Pogacar. On peut également citer à l'instant Alejandro Valverde ou encore Jay Hindley. Et puis devant, c'est sans surprise Remco Evenepoel qui, dans la cinquième et avant-dernière difficulté du jour, est en train de lâcher quasiment tout le monde, à l'exception de Simon Yates. On a également un coureur d'Ineos, il me semble que c'est Dani Martinez qui a réussi à suivre derrière, en tout cas quelques roues derrière ce duo Yates Evenepoel. Le voilà, le duo, peut-être à 45 km de l'arrivée, qui va se disputer la victoire. On a eu plusieurs tentatives, on a notamment eu Matej Mohoric tout à l'heure qui a tenté de s'échapper dans la descente de la précédente difficulté, la descente de Jai Skibel, lui qui est un spécialiste justement de la descente. Matej Mohoric qui a réussi à prendre quelques encablures d'avance sur le peloton, mais qui malheureusement s'est non seulement fait rattraper mais désormais distancé. Donc voilà, ce duo à 2 km 400 du sommet, pardon, de cette cinquième difficulté, le Erlaitz, qui sont 3 km 800 à 10,6% de moyenne et des passages jusqu'à 13%. Ce duo qui est en train de creuser l'écart sur le reste du peloton des favoris. Je n'ai pas aperçu ni Guillaume Martin, ni David Gaudu, ni Aurélien Paré-Peintre, nos Français qui auraient pu pourquoi pas prétendre aujourd'hui à un podium. On semble être parti là vers un duo droit pour l'arrivée, donc 45 km désormais sur cette classique à Saint-Sébastien.
Direction les femmes en Alsace, Célesta Le Marchstein, l'avant-dernière étape de ce Tour de France femmes avec Valentin Jamin sur place dans les Vosges.
Et la femme de tête, Annemiek van Vleuten, qui on le rappelle est partie lors de la deuxième ascension à 60 km de l'arrivée. Elle est partie seule, elle a 1 minute 29 d'avance sur sa première poursuivante qui est Demi Vollering, néerlandaise également. Derrière, Elisa Longo-Borghini est à 5 minutes 23 de la tête de course, celle qui était quatrième ce matin au général. Et puis à 6 minutes 27 d'Annemiek van Vleuten, on a un autre groupe avec la polonaise Katarzyna Niewiadona qui était troisième au général ce matin, Sylvia Persico l'italienne qui était deuxième. Deux Françaises également, Juliette Labousse qui pour l'instant est sixième au général, elle gagne une place, et Evita Music de la FDJ Suez Futuroscope. Voilà des écarts colossaux. On rappelle que Marianne Vos, maillot jaune ce matin, est reléguée à près de 20 minutes maintenant d'Annemiek van Vleuten qui pour l'instant part tout droit vers le maillot jaune, la néerlandaise de 39 ans qui rêve de gagner le Tour de France, elle qui a déjà gagné trois fois le Giro et qui l'a emporté il y a quelques semaines sur cette course. On va aborder dans une dizaine de kilomètres maintenant, le grand ballon, le toit de ce Tour de France, 1336 mètres d'altitude, mais montée un petit peu plus régulière que les deux premières. Annemiek van Vleuten file tout droit vers la victoire et le maillot jaune.
Merci Valentin, en direct des Vosges, du Markstein, qui sera le lieu de l'arrivée de cette avant-dernière étape du Tour de France Femmes. La Formule 1, les 6 dernières minutes de cette Q1, ces qualifications du Grand Prix de Hongrie, ce circuit qu'on appelle le tourniquet hongrois, Jean-Luc Roy.
J'aime beaucoup cette appellation, effectivement, dans le chaudron tout près de Budapest. Ben, c'est vrai que c'est un circuit qui est très sinueux, effectivement, avec 14 virages, un circuit où le public d'ailleurs a une visibilité extraordinaire. Moi, j'ai vécu la première édition en 1986, là-bas, il y avait encore le rideau de fer. Et je peux te dire qu'il y avait entre 200 et 250 000 personnes sur les collines dès le vendredi. On a pu voir d'ailleurs que dès hier, il y avait beaucoup de monde autour de ce tracé. Alors, pour en revenir à ce qui se passe sur la piste, c'est Verstappen le plus rapide pour 52 millième, avec bien sûr sa Red Bull à moteur Honda devant les Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, respectivement 2 et 3. Lewis Hamilton a réussi un très beau chrono. Il est quatrième devant Lando Norris. On a vu que les McLaren étaient bien hein, ici. Lando Norris 5e et Russell 6e, mais si tu permets, c'est évidemment à partir du 15e qu'on va s'intéresser, puisque là Alex Albon, qui avait signé le 3e temps sous la pluie, eh bien Alex Albon avec sa Williams est donc sur la bulle et le voilà 14e maintenant. C'est Kevin Magnussen qui se retrouve 15e en amélioration actuelle. Zhou, le chinois, avec son Alfa Romeo est 16e. Nicolas Latifi, l'homme le plus rapide de la FP3 sur le mouillé, n'est que 17e devant Vettel, qui a donc annoncé son retrait de la Formule 1 à la fin de la saison. Le quadruple champion du monde, Vettel 18e. Tsunoda qui démontre que c'est moyen pour les AlphaTauri. Pierre Gasly a réussi un beau temps, il est 10e. Donc Tsunoda 19e et Mick Schumacher qui pour le moment a des difficultés et qui est dernier. Donc 5 pilotes en difficulté pour le moment, effectivement. Et nous sommes à moins de 4 minutes du terme, Arnaud.
Tu parles de Mick Schumacher. On sait que la F1 va être sur pause pendant 4 semaines. On appelle ça la saison folle, la silly season, silly parce season. Que c'est les tractations ouais. pour les baquets en 2023. Et on parle de Mick Schumacher chez Aston Martin pour remplacer Sébastien Vettel, qui est un petit peu son petit protégé, son poulain, hein, Vettel, qui prend sa retraite.
Voilà, alors là, c'est plutôt Sébastien Vettel qui l'a pris effectivement sous son aile. On sait qu'il y a des liens d'amitié entre les deux hommes. Ils sont allemands déjà, et puis bon, il l'a quelque part pris sous son aile, Vettel, parce qu'il aime bien ce côté un petit peu protecteur, ce qui est tout à son honneur. Alors le problème, c'est qu'à mon avis, deux jeunes pilotes comme Stroll et Schumacher, ils font ce qu'ils veulent hein, chez Aston, mais à mon avis, c'est
le fils à papa, le fils du Kaiser, ça peut
exactement,
du Baron Rouge.
Exactement. Je crois que c'est un peu tôt. D'ailleurs, ce serait un peu brûler peut-être les ailes de Mick Schumacher. Non, ils ont besoin d'un pilote expérimenté. Alors la liste est longue. Hein. On commence par Alonso, qui pour le moment n'a toujours pas renouvelé son contrat avec Alpine. Même si a priori il devrait rester pour 2 ans d'ailleurs, c'est son souhait. On parle de Ricciardo en difficulté chez McLaren, on le sait bien, même si Daniel Ricciardo, le pilote un des plus sympathiques du plateau, évidemment, on le sait, l'Australien dit moi j'ai un contrat pour 2023, je serai chez McLaren en 2023. Enfin, et puis il y a les De Vries, il y a beaucoup de monde, il y a Oscar Pietri qui pourrait être prêté par Alpine. Enfin bref, mais là aussi, on retomberait, à mon avis, on a besoin d'un cadre. C'est pour ça qu'on avait recruté Vettel chez Aston. On a besoin de quelqu'un pour faire évoluer l'équipe. Et l'écurie, donc on choisira à mon avis le plus capé disponible. Voilà, c'est mon opinion.
Alors encore 2 minutes 30 à suivre dans cette Q1. On revient dans un instant pour voir quels seront les 5 pilotes éjectés après cette Q1 dans cette séance de qualification du Grand Prix de Hongrie. Le football, la Ligue 2 avec le DFCO Dijon face à Saint-Etienne. Je vois l'arbitre de la rencontre mettre souvent la main à la poche, Fred Joly.
Ouais, avec un nouveau carton jaune après 60 minutes de jeu. Enfin, nouveau carton jaune. On en est à 3 d'un côté, 3 de l'autre. Dans l'ensemble, c'est une rencontre qui se passe plutôt bien. C'est vrai que Giroud vient de mettre le genou dans le dos de Camara. Ça a arrêté évidemment le mouvement de l'attaquant dijonnais qui s'est relevé, tout va bien, mais bon, l'arbitre de la rencontre a décidé de sortir un carton jaune. 2-0 pour Dijon, mais attention à ces Stéphanois qui vont un petit peu mieux hein. Il y a eu ce débordement de Bouanga qui a centré fort devant le but de René. C'est du genou que le portier Côte d'Orient a sorti cette balle qui a dépassé devant son but. Et puis signaler qu'il y a eu quand même deux changements du côté de Saint-Étienne, avec Mouton qui a remplacé Youssouf et Aïki qui a remplacé Masson. Voilà pour ce qui est des mouvements du côté de Dijon. Dijon, on est toujours sur le même 11 qui avait été aligné.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un carton rouge pour un? Alors, il y a eu jaune pour Daniel Congré, mais on a vu son intervention, là, on vient de voir sur un ralenti, où par derrière, il vient serrer entre ses jambes le genou d'un attaquant stéphanois. Toi qui as vu sa vitesse réelle, est-ce que c'était pas limite, c'était plus rouge que jaune? Il a eu carton jaune. Hein.
Ouais, il a eu carton jaune. Alors, il n'y a pas eu rouge, alors peut-être que l'arbitre a considéré que finalement la faute n'était pas si grave. Après, il s'est passé un petit laps de temps entre la faute et.
Il n'y a pas de VAR, hein. C'est là, voilà, le gros changement.
Il n'y a pas de VAR, c'est-à-dire que là, il a été vraiment au feeling par rapport à ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti. C'est vrai que cette faute de Congré était un petit peu sévère, un peu appuyé par derrière sur le joueur Stéphanois. Ça aurait pu mériter un rouge, mais il s'est passé une vingtaine de secondes. Alors l'arbitre a peut-être un peu cogité pour finalement et au final ne donner.
Il s'est repassé les images dans sa tête.
Voilà, c'est ça. Il s'est fait savoir tout seul. Mais bon, il a dit je décide qu'il n'y aura qu'un carton jaune. C'est vrai que ça aurait pu être un peu plus que jaune. Mais bon, en tous les cas, pour l'instant, on est toujours 11 Dijonais contre 11 Stéphanois.
Et à suivre à 19h le multiplex avec notamment Bordeaux-Valenciennes. Les Bordelais, oui, seront bien en Ligue 2, un multiplex dans l'intégral foot animé par Benoît Boutron avec Sébastien Piocel, avec ces matchs que vous pourrez suivre sur RMC en direct. La fin de la Q1, les qualifications du Grand Prix de Hongrie, Jean-Luc Roy.
Mais oui, c'est très chaud Arnaud, parce que voilà, le temps officiellement imparti est terminé, donc le drapeau d'Amier va s'abattre et pour le moment, et c'est l'énorme surprise, même si on va pas s'énerver, on est en Q1, mais les deux Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell sont les plus rapides, c'est incroyable, devant la Ferrari de Carlos Sainz et la Red Bull de Verstappen. Alonso est derrière et puis Ricciardo et Leclerc. Évidemment, c'est derrière qu'on regarde ce qui se passe avec Mick Schumacher qui avait produit une belle performance il y a un instant. Ça lui a permis d'accéder au 15e rang. Est-ce que ça va suffire? Pour le moment, il passerait la barre de la Q1 et voilà, il améliore un petit peu, il remonte 14e. C'est maintenant Lance Stroll, le Canadien d'Aston Martin, qui est sur la bulle. Yuki Tsunoda, lui aussi, a amélioré sa perf. Il est 16e. Alex Albon, 17e. Sébastien Vettel, 18e. Et attention, je crains pour Pierre Gasly. Pierre Gasly seulement 19e de cette Q1. Et Nicolas Latifi, lui, malgré le fait qu'il ait réalisé le meilleur temps, c'est incroyable, dans le premier secteur. Mais ensuite, eh bien, il a été moins bien, notamment dans le troisième. Nicolas Latifi est dernier. Donc je pense qu'il n'y a plus d'amélioration à venir. Et malheureusement, la très mauvaise nouvelle, c'est qu'on va perdre Yuki Tsunoda avec son AlphaTauri, Alex Albon avec la Williams, Sébastien Vettel avec l'Aston. Malheureusement, Pierre Gasly avec l'AlphaTauri, ça va pas du tout hein, pour les AlphaTauri, puisque les deux pilotes restent sur le carreau en Q1. C'est le cas aussi de Nicolas Latifi, voilà, pour ses perfs en Q1 sur une piste sèche, il faut le signaler. Mais est-ce qu'elle va le rester Arnaud, parce qu'il y a des gros nuages noirs tout autour du tracé de Hungaroring.
Latifi qui en 2 heures passe de la première place à la dernière, c'est exactement. Quand même pas souvent hein.
Non, c'est pas souvent. Alors c'est vrai qu'on l'a expliqué tout à l'heure hein, la piste allant en s'asséchant. Il avait très bien joué le coup, le pilote canadien de Williams, en chaussant les pneumatiques intermédiaires dans les toutes dernières secondes et en effectuant son tour, en fait, en passant sur la ligne juste avant que le drapeau ne tombe. Il a donc effectué ça sur un. Mais bon, ça
les
fait partie du jeu.
De piste, mais bon, il gagne une médaille en chocolat. Hein.
Exactement. C'est peut-être ce qu'on aura tout à l'heure en Q2 ou en Q3, va savoir. Parce que si la pluie se met à tomber, il va falloir bien jouer avec les pneumatiques et avec l'état de la piste pour réaliser une performance. En attendant, on vient de vous le dire, on va perdre Tsunoda, Albon, Vettel, malheureusement. Heureusement, Pierre Gasly et Nicolas Latifi.
Et on te retrouve pour la Q2, mais c'est vrai que cet enseignement, ça va mal. Ça va mal chez AlphaTauri, et notamment ouais. Pierre Gasly, qui coince en ce moment notre pilote français. A tout de suite pour la Q2, Jean-Luc. Le cyclisme, la classique Saint-Sébastien au Pays Basque, Arnaud Souk.
Et on a un seul homme désormais en tête à 41 km 400 de l'arrivée, alors que l'on vient de basculer dans la descente de la 5e et avant-dernière difficulté du jour, Laïts. Il a fait la différence dans cette ascension, Remco Evenepoel notamment, sur les passages les plus difficiles, des passages jusqu'à 13%. Le Belge qui est en train de s'envoler peut-être vers une deuxième victoire après 2019 sur cette classique à Saint-Sébastien. Attention, parce qu'il reste quand même encore 41 km à parcourir. Il restera aussi le Mourgil Tontora à franchir tout à l'heure à quelques kilomètres de l'arrivée. On a des passages jusqu'à 19%. C'est vraiment une montée très très difficile, la situation de course. Donc Remco Evenepoel en tête, il a réussi à distancer Simon Yates, qui avait été le seul à pouvoir l'accompagner lorsqu'il est sorti tout à l'heure du peloton des favoris. Il a désormais 17 secondes de retard, Simon Yates, l'anglais. Puis dans un troisième rideau, on a quatre bonhommes qui ont essayé de mener la chasse tant bien que mal pour revenir sur la tête, mais qui n'y sont pas parvenus et qui vont peut-être pouvoir s'entendre dans la descente pour essayer de rentrer. On a l'Espagnol Carlos Rodriguez Rodriguez, on a le néerlandais Bauke Mollema, on a Tijs Benoot, le belge coéquipier de Jonas Vingegaard, notamment sur le dernier Tour de France, et puis on a un français, Pavel Sivakov, qui n'est pas le plus connu des cyclistes français, et pour ainsi dire, il avait la nationalité russe jusqu'en début d'année, même si lui voilà, a passé le plus clair de sa vie en France. Il est le fils d'Alexei Sivakov, qui a été coureur professionnel dans une équipe française dans les années 90. Il est né en Italie, Pavel Sivakov, et il est arrivé en France dans le sud-ouest de la France quand il était tout petit, quand il avait un an et demi, deux ans, et donc le voilà désormais coureur d'Ineos depuis plusieurs saisons, et surtout désormais avec la nationalité sportive française. Donc voilà un Français qui est peut-être en position de prétendre à un podium aujourd'hui, c'est Pavel Sivakov. Donc ce groupe évolue à une cinquantaine de secondes environ de la tête, occupée par Remco Evenepoel.
On reste sur un vélo, mais cette fois-ci les femmes en France, le Tour de France femmes, la sixième étape en Alsace entre Célestat et le Markstein. Valentin Jamin.
Situation a changé, écart stabilisé pour le moment à 35 km de l'arrivée. Annemiek van Vleuten qui a tout fait exploser à 60 km de l'arrivée, elle est seule en tête, 1 minute 30-35, ça varie d'avance sur sa compatriote Demi Vollering du team SD Works. Elisa Longo-Borghini est toujours seule, elle, depuis quasiment le début de l'étape où elle a essayé de s'accrocher, elle est à 5 minutes de la tête de course, et puis derrière 1 minute 30 derrière Elisa Longo-Borghini, on a un groupe avec 6 coureuses, des prétendantes au top 5, dont Juliette Labousse, la française de 23 ans du team DSM, ou encore Evita Music, qui jouait plutôt un rôle d'équipière, la coureuse d'FDJ Suez Futuroscope pour sa leader danoise Cécilie Uttrup Ludwig. Voilà Marianne Vos, la maillot jaune est passée avec 17 minutes de retard. Il y a un groupe qui est encore passé avec plus de 20 minutes de retard sur Annemiek van Vleuten. Il reste la plus grosse montée du jour, 13 km, plus de 13 km, le col du Grand Ballon pour toutes ces coureuses, et donc Annemiek van Vleuten qui va s'emparer normalement, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de chute ou d'incident, du maillot jaune. On s'intéressera également au délai, parce que certaines filles vont beaucoup souffrir aujourd'hui et l'étape va très très vite. Un dernier mot, Arnaud, vous l'avez sûrement vu si vous avez regardé le Tour jusqu'ici, c'est Lorena Vibes qui a remporté 2 étapes, qui avait le maillot vert, alors par défaut, parce que c'est Marianne Vos qui est leader du classement par points, mais elle avait déjà le jaune. Bref, Lorena Vibes a abandonné ce matin, elle était tombée hier et voilà, elle a été très vite distancée et donc elle a abandonné, donc encore une coureuse de moins sur les routes. Van Vleuten devant à 33 km de l'arrivée.
Et on suit la dernière heure de course pour l'avant-dernière journée sur les routes pour les femmes avant demain ce final en apothéose avec cette super planche des belles filles. On vient dans un instant, le temps, le score, la Ligue 2, Dijon face à l'AS Saint-Etienne, c'est le premier match de la saison. Fred Joly,
68 minutes de jeu et le DFCO mène 2-0, 2 buts inscrits en première période par Le Bihan et Soumaré.
La suite de tous ces directs et aussi la Formule 1 avec cette Q2 à suivre avec Jean-Luc Roy sur RMC dans l'Intégral Sport. A tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
Et peut-être le but de l'espoir, c'est la Ligue 2, la première journée. Dijon face à Saint-Etienne avec cette réduction de l'écart des Verts. Fred Joly depuis le stade Gaston Gérard.
Exactement, 73 minutes de jeu et les Stéphanois qui allaient beaucoup mieux depuis le retour des vestiaires, qui nous ont montré un peu plus de choses qu'en première période. Et bien, ont été récompensés avec ce but de Emma Naiki qui est entré à la place de Masson précisément au retour des vestiaires. Il a récupéré un ballon qui était un petit peu flottant en l'air, un ballon un petit peu en cloche. Il a mis le plat du pied. C'est pas un ballon du tout frappé, hein. C'est un ballon qu'il a poussé de l'intérieur du pied. Le ballon est passé devant René, a tapé contre le poteau droit de René avant de rentrer tout doucement dans le but dijonnais. Voilà un but stéphanois qui redonne peut-être un petit peu espoir aux hommes de Laurent Batless et qui pourrait faire douter pour ce gros quart d'heure qu'il reste les hommes de Omar Dave, 2-1 pour Dijon ici à Gaston Gérard.
Et encore un petit quart d'heure à jouer, pourquoi pas l'AS Saint-Etienne aller chercher ce point du match nul. En tout cas, c'est possible, on voit des Verts un petit peu changer. Hein. Autant en première mi-temps, Fred, domination large de la part des Dijonais, autant là en deuxième mi-temps, c'est un peu plus équilibré, même les Verts. Après, on peut dire que c'est logique que Dijon laisse un peu les Verts faire le jeu. Hein.
Ouais, ils laissent faire le jeu, c'est surtout que Saint-Etienne joue mieux hein, cette deuxième période, en laissant un peu mieux, un peu plus... peut-être pas concentré, mais un peu plus volontaire et ils vont un peu plus de l'avant. Donc ils mettent logiquement cette équipe dijonnaise en difficulté. Donc on peut dire que c'est mérité hein, cette réduction de l'écart avec ce but, même si les Dijonais vont pouvoir regretter hein, en espérant pour eux que Saint-Etienne ne revienne pas au score, vont pouvoir regretter leurs deux grosses occasions avec Nassi et Le Bihan à qui il a manqué quelques centimètres pour marquer, peut-être avec une nouvelle occasion, hein, une nouvelle fois le retour. Oh, c'était bien vu de la part de Soumaré qui a voulu glisser cette balle vers Assalé qui est entré il y a quelques minutes à la place de Nassi, complètement cuit le jeune Nassi qui arrive de Saint-Brieuc, qui découvre la Ligue 2. La Ligue 2, il avait des crampes, il est sorti, et bien Assalé était tout près de récupérer cette balle, ce centre, un rater qui a finalement été mis en corner par un pied stéphanois. Je pense que nous allons avoir du spectacle jusqu'à la fin de cette rencontre, un corner à suivre, et Dijon mène 2-1.
Et on suit la fin de cette première rencontre de la saison de Ligue 2, le multiplex à 19h, vous savez le rendez-vous avec Benoît Boutron et Sébastien Piocel. La Formule 1, la Q2, tout le monde n'a pas encore fait de temps, Jean-Luc Roy, mais peut-être rappeler les 5 pilotes qui ne préparent, qui ne prennent pas part à cette Q2, les qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie.
Et oui Arnaud, malheureusement ce sont les deux AlphaTauri de Yuki Tsunoda, le pilote japonais qui avait signé la 16e performance. Il faut être évidemment dans les 15 plus rapides pour accéder à la Q2. C'est Alex Albon, le Thaïlandais, qui avait été l'homme le plus rapide pourtant, c'était Nicolas Latifi, son équipier, qui est dernier temps. Mais en tout cas, les deux Williams s'étaient montrés rapides sous la pluie. Et bien malheureusement, elles font partie des éliminées. Puis il y a Sébastien Vettel, le quadruple champion du monde d'Aston, qui a décidé de mettre fin à sa carrière en fin de saison. Et enfin, Pierre Gasly, malheureusement, ça va mal pour AlphaTauri actuellement.
Et on suit encore 8 minutes dans cette Q2. On aura évidemment l'identité des 10 pilotes qui iront se battre pour la pole position, même si c'est vrai que cette année, c'est soit Red Bull, soit Ferrari, comme les victoires, évidemment, en Jean-Luc, mais peut-être une surprise. Allons savoir. Ah oui. Le cyclisme, la classique Saint-Sébastien, Arnaud Souk, depuis le Pays Basque. D'ailleurs, notre ami Tadej Pogacar lâché, c'est définitivement terminé pour le Slovène.
On n'a pas eu de nouvelles de Tadej Pogacar, mais oui, on imagine que c'est définitivement terminé, comme ça l'est d'ailleurs pour un paquet de coureurs, puisque la situation à 31 km de l'arrivée est la suivante. Nous avons un homme en tête, un Belge, Remco Evenepoel, la génération 2000. C'est l'un des grands bonhommes d'avenir, c'est même un bonhomme du présent du cyclisme mondial, puisqu'il a remporté notamment le monument Liège-Bastogne-Liège il y a quelques semaines. Il s'était déjà imposé en 2019 sur cette classique à Saint-Sébastien, et il est en train de prendre une avance que je ne qualifierais pas pour l'instant de définitive, mais en tout cas de conséquente, sur un groupe de 5 poursuivants. Dans ces 5 poursuivants, il y a Simon Yates, l'anglais, Tish Benoot, le belge, Bauke Mollema, le néerlandais, Carlos Rodriguez, le champion d'Espagne, et le français Pavel Sivakov. 1.06 de retard pour ces hommes-là, et puis derrière ce qui reste du peloton de favoris pointé à 2:13. On a notamment aperçu dans ce peloton Rigoberto Urán, donc vraiment ça commence à sentir très très bon pour Remco Evenepoel, même s'il reste encore 30 km et une difficulté majeure, le Mourgil Tontora, dans quelques kilomètres à franchir avant l'arrivée à Saint-Sébastien.
Remco Evenepoel, que tu nous annonçais comme un des principaux favoris pour cette classique, Arnaud, lui qui nourrit de grandes ambitions, notamment sur la Vuelta. On suit évidemment la fin de cette course. Elle fonce vers l'ultime ascension de cette 7e étape. Je parle bien évidemment du Tour de France femme. Valentin Jamin sur place. Le Markstein, c'est l'arrivée, c'est là où tu te trouves, et il leur reste moins de 30 km aux coureuses et notamment à la future maillot jaune, vraisemblablement ce soir.
Ah oui, il reste 25 km à parcourir pour Annemiek van Vleuten, mais il y a un bon paquet de coureuses qui n'ont pas encore passé la barre des 30 km parce que les écarts sont colossaux. Donc Annemiek van Vleuten, la néerlandaise de la Movistar, 25 km de l'arrivée, qui dans 4 km abordera la dernière des 3 difficultés du jour, le col du Grand Ballon, ascension à 1336 mètres d'altitude, avec donc ce col en première catégorie. La néerlandaise qui est suivie par une autre néerlandaise, Demi Vollering, qui est maintenant 2 minutes derrière le quart. L'écart s'est un petit peu creusé, mais elle tente de s'accrocher, la jeune coureuse de 25 ans, Elisa Longo Borghini, l'italienne, même schéma que tout à l'heure, et troisième sur la route, mais à plus de 5 minutes d'Annemiek van Vleuten. Et toujours ce groupe avec deux françaises, Juliette Labousse et Evita Music, qui discutaient d'ailleurs tout à l'heure peut-être de stratégie, peut-être de relais. Elles se connaissent bien, hein. C'est vraiment le futur du cyclisme féminin français. 23 ans pour Labousse, 20 ans pour Music, et elles sont à 6 minutes de la tête de la course. Voilà pour le schéma. Et encore il y a quelques instants, on voyait des coureuses passer, parce qu'au Marnstein où je me trouve, on passe une première fois sur la ligne, il y a une autre boucle derrière pour revenir. Eh bien, certaines filles sont passées avec près d'une demi-heure de retard sur Van Vleuten. Donc voilà, il y en a vraiment partout pour cette étape de montagne. 25 km de l'arrivée encore, le col du Grand Ballon à parcourir pour Van Vleuten, qui ouvre la route sur cette 7e et avant-dernière étape du Tour de France femme.
Quelle démonstration impressionnante, hein, de la part de Van Vleuten. On suit évidemment ces 25 derniers kilomètres avec toi, Valentin. La Q2, les qualifications du Grand Prix Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Jean-Luc Roy sur place, un peu moins de 5 minutes encore dans cette Q2.
Absolument, 4 minutes 15 exactement, et c'est Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide. Il a fait claquer un chrono formidable, une 17-703. On n'avait pas encore roulé aussi vite sur le tourniquet hongrois depuis le début du week-end. Il précède Charles Leclerc avec sa Ferrari de 65 millièmes seulement. Fernando Alonso est un étonnant troisième avec l'Alpine, et puis Carlos Sainz, l'autre Ferrari, Lewis Hamilton, Lando Norris, Russell, Ricardo, Perez, Chou, et tu me vois venir Arnaud. C'est à partir du 11e qu'on se pose des questions, et bien ce 11e, c'est le vainqueur de l'an dernier, c'est Esteban Ocon avec l'autre Alpine. Il est à une seconde tout pile de l'homme le plus rapide. Il va falloir faire mieux, il va falloir trouver au moins 2 dixièmes. À mon avis, ça va se terminer à moins de 8 dixièmes de l'homme le plus rapide pour accéder à la Q3. Donc Esteban Ocon 11e, Valtteri Bottas avec l'Alfa Romeo est 12e, Kevin Magnussen 13e avec la première des As. À signaler que les As ont eu énormément d'évolutions aérodynamiques, les pilotes les attendaient depuis le début de la saison, et bien c'est enfin arrivé, et apparemment il se confirme que c'est performant, puisque Magnussen, je le dis, 13e, Lance Stroll est 14e, Mick Schumacher qui va améliorer dans la deuxième tentative est 15e. On va attendre un petit peu, je répète, sur la bulle joue le chinois, donc de l'équipe Alfa Romeo, qui précède, et une fois n'est pas coutume, Valtteri Bottas qui, on le sait évidemment, était l'auteur involontaire l'an dernier d'un strike dans le premier virage, juste après le départ sur une piste assez piégeuse.
Et Sergio Perez vient d'annoncer à la radio quelques gouttes de pluie au fond du circuit, parce que oui, le temps est très menaçant, on voit des nuages très sombres près de ce Hungaroring.
Ah, tout à fait, on l'avait signalé Arnaud, effectivement, on avait vu ces nuages, ça se déroulait jusque là sur piste sèche, ça veut dire que là, il ne va pas falloir perdre de temps pour sortir le chrono, et je le répète une nouvelle fois, pour Esteban Ocon notamment, le pilote français vainqueur 2021 de ce Grand Prix de Hongrie, c'est maintenant qu'il faut passer dans la Q3, c'est maintenant qu'il faut trouver, ouais, il a un gros dixième à trouver hein, pour précéder le chinois Zhou qui est juste devant lui, c'est le cas aussi de Valtteri Bottas qui est tout près de Esteban Ocon, c'est vraiment extrêmement serré hein, sur ce tracé, les écarts sont réduits, et je le répète, il faudra être certainement à moins de 8 dixième de Verstappen, Charles Leclerc, de ce côté-là on est tranquille et on est pourtant resté en piste pour le moment. Fernando Alonso lui est au stand et on va avoir peut-être une deuxième tentative pour les pilotes qui sont en difficulté. Voilà, je vois Lance Stroll qui est en train de repeindre sa ligne en vert, notamment dans le premier secteur, il est en amélioration perso, le pilote canadien d'Aston, 28 secondes 529. Est-ce que ça va suffire? Probablement pas encore, il n'est que 14e. Le deuxième secteur est moyen, 28 secondes 363. Je pense que Stroll va améliorer, mais à peine ça ne devrait pas lui permettre de devancer Zhou pour le moment. 1:18.640 pour Zhou, et pour le moment Stroll était en 1:19.161, c'est-à-dire que c'est bien 5 dixièmes que doit trouver Lance Stroll pour essayer d'accéder à la 10e position qui serait pour lui évidemment le carton vert pour accéder à la Q3. Voilà, il en a terminé Stroll, et comme je l'avais anticipé, malheureusement pas d'amélioration pour le pilote canadien. Il reste encore un peu plus d'une minute Arnaud pour que cette Q2 soit terminée.
Un petit détour à Dijon, tu as été perturbé, tu as entendu la tribune de presse de Gaston Gérard s'exclamer, Fred Joly, la Ligue 2, Dijon-Saint-Etienne, il y a un très bon coup franc pour les Dijonais.
Ouais, exactement, c'est pour ça qu'on s'énerve un petit peu dans la tribune de Gaston Gérard. Bon,
c'est la première journée, on devrait être tranquille, hein, on ne devrait pas être stressé. Hein.
Non mais bon, tu sais, là, on est entouré de gens passionnés, donc ça s'énerve un petit peu.
Deux mois sans football, ça frustre.
Hein. Ouais, c'est sûr. Et donc là, ils sont à fond dans le truc, surtout que Soumaré venait nous faire une petite promenade dans la défense de Stéphanoise avant d'être accroché et que l'arbitre ne siffle un coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation. Alors évidemment, il y a Soumaré ou bien Le Bihan. C'est plutôt pour un droitier. Ça va être Le Bihan. Oh là, c'est largement au-dessus. Il n'a peut-être plus la lucidité du début de match. Enfin là, il a bien essayé. Il n'a pas réussi à faire retomber cette balle dans le but de Green. C'est passé largement dessus et tout le public a fait oh. Voilà. Ce qui n'empêche que Dijon mène toujours du but à 1 alors qu'on a fait rentrer Tune du côté de Dijon, où c'est nous Tune que Mardia fait amener dans
Fred,
sa valise.
Je te coupe, on va oui. Juste suivre la fin de cette Q2, le chrono. D'accord. Qui s'en ouais, oui. Termine. Jean-Luc Croix, c'est la Q2.
Absolument, ça se joue maintenant Arnaud dans le tout dernier tour. Alors Esteban Ocon a amélioré, heureusement pour lui, comme je l'avais dit, il fallait qu'il passe la barre. Il est revenu à 513 millièmes exactement, en 1:18.216. A priori c'est bon, il est 8e Esteban. Il est protégé en quelque sorte par Valtteri Bottas qui a amélioré lui aussi, qui est pour le moment 9e. Mais attention à Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui est sur la bulle, il est 10e. Il est en amélioration perso dans le 2e secteur. En revanche, et ce serait une énorme surprise, je pense que Sergio Pérez va rester sur le carreau. Le pilote mexicain de Red Bull Honda, a priori, va rester sur cette 11e position. Tsu également ne passera pas la barre. Et voilà, je vois pas d'amélioration. On va donc perdre Mick Schumacher dans cette Q2. Il n'accédera pas à la Q3. C'est le cas de Lance Stroll, le Canadien, de Kevin Magnussen, le coéquipier chez Haas de Schumacher, de Zhou, je l'ai dit, le chinois d'Alfa Romeo, et puis Sergio Pérez. Et ça, c'est l'énorme coup de tonnerre, Arnaud, parce qu'évidemment, on pensait les Red Bull très performantes. Eh bien non, et dans les qualifiés, en remontant, on aura Valtteri Bottas avec l'autre Alfa Romeo, Esteban Ocon avec l'Alpine, le vainqueur 2021, Daniel Ricciardo avec la McLaren, George Russell est 7e, Lando Norris 6e, Lewis Hamilton 5e, et puis devant le quatuor de tête, Carlos Sainz, la Ferrari, Fernando Alonso. Et oui, si on peut douter de la motivation et du talent de Fernando, eh bien je pense que chez Alpine, on ne va pas tarder à le signer, ne serait-ce que pour ne pas le voir partir ailleurs. Il va rester normalement 2 saisons avec Alpine. Et Max Verstappen, qui s'est montré le plus rapide en 2017-73, la bataille pour la pole, c'est maintenant.
Pérez qui se plaint à la radio que Magnussen l'aurait gêné. Bah oui, c'est évidemment quand on termine tous en même temps leur tour, c'est 20 monoplaces sur un circuit comme ça, forcément parfois il y a des dégâts, et donc voilà, Pérez justifie sa 11e place, c'est son absence en Q3 comme ça. Merci Jean-Luc. Et bah justement, les 10 derniers pilotes pour se disputer la pole position, même si on sent que ça sera entre Verstappen, Leclerc et Sainz, même si Alonso est 3e, mais pour l'instant toutes les poles sont allées soit une Red Bull soit une Ferrari cette saison. Le temps, le score en Ligue 2, Fred Joly, Dijon, AS Saint-Etienne.
Et il reste 4 minutes à jouer et le DFCO Dijon mène 2-1. Le Billon et Soumaré ont marqué pour Dijon et Aiki a réduit l'écart pour Saint-Etienne. 2-1 pour Dijon.
La fin de cette première rencontre de la saison de Ligue 2 dans un peu moins de 10 minutes avec le temps additionnel évidemment, et puis surtout la Q1 de Formule 1, qualification du Grand Prix de Hongrie. C'est tout de suite avec Jean-Luc Croix dans l'Intégral Sport sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
16h45, on est heureux de vous accompagner en cet après-midi de sport où on retrouve du football, la Ligue 2. Tout à l'heure aussi, vous aurez à J-1 du Trophée des Champions les réactions de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais également d'Antoine Comboré, l'entraîneur du FC Nantes, puisque demain à 20h, premier match officiel pour le Paris Saint-Germain et le FC Nantes, coup d'envoi à 20h de ce Trophée des Champions à Tel Aviv. La Ligue 2 avec un carton rouge sorti contre un joueur de l'AS Saint-Etienne. On va arriver dans le temps additionnel de cette rencontre, Fred Joly à Gaston Gérard, Dijon Saint-Etienne.
Ouais, il y aura 4 minutes de temps additionnel et c'est vrai, un carton jaune un petit peu stupide de la part de Denis Bouanga qui a accroché le pied de l'expérimenté Thune qui est tombé logiquement, il a joué le jeu, l'arbitre monsieur Lissorgue a sifflé coup franc et c'est à ce moment-là que Bouanga a été se plaindre, a sans doute eu des mots pas très sympathiques envers l'arbitre. Carton rouge direct pour l'attaquant stéphanois et voici des Stéphanois réduits à 10 pour les 3 minutes 50 qu'il reste dans le temps additionnel alors que Dijon mène 2-1.
Et on suit la fin de ce temps additionnel avec toi et c'est Saint-Etienne qui restera avec moins 3 points au classement, Fred, parce qu'ils ont ces 3 points retirés suite aux incidents lors du barrage contre Auxerre.
Ouais, exactement, hein, ces 3 points qui leur sont retirés, sans oublier les 3 points avec sursis. Bon, on espère que les supporters stéphanois vont être assez intelligents pour limiter la casse. Déjà 3 points, c'est pas franchement évident à rattraper, mais bon, il faudra faire avec. Laurent Batles comptait beaucoup sur cette rencontre, comme il le disait, pour remettre les compteurs à zéro, vraiment débuter hein, on va dire à égalité avec tout le monde. Et bien ça se passe plutôt mal car pour l'instant les stéphanois sont en train de repartir de Gaston Gérard avec une défaite certes de 2-1 où des Stéphanois nous ont montré de très très belles choses en seconde période. Une équipe stéphanoise qui n'est peut-être pas encore tout à fait prête, une équipe stéphanoise où il manque quelques joueurs hein, comme Chambaud entre autres et puis d'autres qui vont venir compléter au fil des semaines l'effectif de Laurent Batles et en plus une équipe de Saint-Etienne qui serait sur l'ancien Lorientais hein, qui joue aux Pays-Bas. Adrien Gerbeek fait partie des choix, des envies de Laurent Batles pour renforcer cette équipe stéphanoise. Enfin pour l'instant en tous les cas les Stéphanois sont réduits à 10. Une expulsion un petit peu bête, un petit peu stupide de la part de Bouanga. Mais parfois, il faut savoir tenir sa langue, ce qui n'a pas dû être le cas. Ça n'a pas dû être très gentil, hein, ce que dit Bonga à l'arbitre de la rencontre, car il n'a pas vraiment hésité à sortir le carton rouge. Après, on reprochera évidemment aux arbitres souvent de faire pas forcément preuve de diplomatie et de savoir discuter, de faire de la psychologie. Voilà, par exemple, il va mettre un carton à Tune.
Il y a un minimum de respect toujours, Fred, évidemment. Ouais, tu nous appelles pour la fin de cette rencontre. Encore deux minutes dans le temps additionnel, 2-1 pour Dijon face à Saint-Etienne. Le vélo, le Tour de France femme, Valentin Jamin. En Alsace, dans les Vosges, pour être précis, le Markstein, avec toujours une coureuse seule au monde.
Annemiek van Vleuten à 18 km de l'arrivée, toujours en tête. Elle est dans le col du Grand Ballon, 13,5 km à 6,7% de moyenne. Demi Vollering, la deuxième sur cette étape pour l'instant, est à 2 minutes 53 secondes derrière. Et puis Elisa Longo-Borghini, l'italienne, qui a fait quasiment toute l'étape toute seule, est sur le point de se faire reprendre par le groupe de 6 coureuses, où on trouve notamment deux Françaises, Juliette Labousse et Vita Music, à 6 minutes 20 de la tête de course. Voilà donc la dernière difficulté. C'est en cours pour Annemiek van Vleuten, qui va prendre l'étape, le maillot jaune, et qui va alors pas écraser le tour, puisque Demi Vollering pour l'instant réussit à rester à moins de 3 minutes, mais taper un grand coup, c'était attendu. Elle a été malade, hein, juste sur le tour. Elle a eu une gastro sur les 3 premiers jours. Elle a hésité à abandonner, Van Vleuten. Et bien la preuve est ici, elle est très très bien remise. Encore 18 km à parcourir, Van Vleuten s'est envolé en tête de la course.
Les 20 derniers kilomètres de la classique Saint-Sébastien au Pays Basque, Arnaud Souk.
Avec le Belge Remco Evenepoel, qui fait mieux que de la résistance, puisque lancé seul dans un exercice solitaire face à un duo de gentlemen derrière Pavel Sivakov, le français Carlos Rodriguez, l'espagnol, et bien il continue de creuser l'écart, le Belge, 1-0-6 à l'instant au premier passage sur la ligne d'arrivée, 16 km 300 à parcourir. J'ai 1-40 à l'instant pour un trio qui est placé encore en arrière, Bauke Mollema, Tish Benoot et Simon Yates. Autant dire que Remco Evenepoel, à l'approche de la dernière difficulté du jour, le Murgil Tontora, est bien parti pour s'offrir une deuxième fois de sa carrière la Classica Saint-Sébastien.
Merci Arnaud. La joie à Gaston Gérard, c'est terminé. Fred Joly, Dijon, Saint-Etienne, Dijon, premier leader de cette saison 2022-2023.
Évidemment, c'est complètement anecdotique, mais effectivement, tu as raison. Dijon, premier leader de cette saison, avec cette victoire 2-1. Les Dijonais ont fait la différence en première période, avec Le Billon qui était excellent, Le Billon buteur à la 29e, puis Le Billon qui est à la base au début de l'occasion, qui amènera le second but par Soumaré à la 41e. Et puis du côté de Saint-Etienne, on a réduit le score. Deuxième période bien plus intéressante pour les Verts, avec Aiki qui est à la 69e, réduisait l'écart dans cette rencontre de 2-1. On regrettera juste l'expulsion de Bonga, qui est expulsé à la 89e minute. Score final 2-1 en faveur du DFCO.
C'est ambiance boîte de nuit là, Fred. Gaston Gérard
à fond, hein.
Même Jean-Luc Roy, il est prêt à aller danser sur le dance floor, sur la pelouse.
On a les enceintes juste au-dessus de la tribune de presse. Je peux te dire qu'on ne s'entend pas parler.
C'est chaud. Et ben, préserve ton audition, préserve tes oreilles, Fred. D'accord. Merci beaucoup. Bon après-midi. Salut. Et donc cette monde. Victoire du DFCO face à la AS Saint-Etienne. Là, c'est un peu plus calme. C'est la concentration. C'est la Q3 de ces qualifications de ce Grand Prix de Formule 1 de Hongrie. Tout le monde rentre dans les tours de chauffe, Jean-Luc Roy.
Et oui, tu sais ce que je vais te dire, hein, à propos du son des Formule 1. Mais bien sûr, je vais regretter le rugissement des V10, des V12, des V8. Et oui, bon, ça y est, je l'ai dit. On arrête.
Mais t'es pas le seul, hein. On se souvient d'un Lewis Hamilton. Je crois que Fernando Alonso avait repris sa monoplace. Exactement. Avec laquelle il fut champion du monde. Et exactement, il entendait ce bruit. Alors, certes, pas strident, mais.
Tout le monde se tait. Les tout amoureux. Le monde écoute, on a 18 000 tours. Enfin, bon, ça, c'est comme ça. C'est révolu. Mais pour ceux qui ont eu la chance de l'écouter, c'est un miracle, pour ne pas parler des musiques, des 12 cylindres Ferrari ou V12 Matra. Je m'arrête là. Allez, on revient au fait que nous sommes dans la Q3. Il reste un peu moins de 8 minutes. Et Charles Leclerc vient de signer le meilleur temps, tout provisoire, hein, certainement en 1:17.985. On a roulé beaucoup plus vite. Et voilà, Carlos Sainz fait mieux d'ailleurs à l'instant. 1:17.505. Il relègue son équipier à 480 millièmes. Le troisième pour le moment, c'est Lando Norris. Mais là aussi, c'est vraiment le premier assaut. On a Ocon, Bottas et Ricciardo, c'est-à-dire les 6 hommes qui ont signé pour le moment des chronos significatifs. Je vais rappeler, tiens, la grille de 2021 avec la pole de Lewis Hamilton, c'était carrément la 8e pole position.
C'est son circuit, hein.
C'est son circuit. circuit de Lewis Hamilton sur ce tracé de Hongrie où il avait remporté 8 victoires d'ailleurs. Il avait à ses côtés Valtteri Bottas, son équipier de chez Mercedes. J'ai raconté le strike qu'il avait commis au premier virage, le premier tour. On avait Max Verstappen, troisième temps. Sergio Perez, évidemment qu'on ne va pas retrouver là puisque Perez n'est que 11e, qui était 4e. Et puis ensuite, troisième ligne, Pierre Gasly. Malheureusement, il n'est pas là non plus. Et Lando Norris, Charles Leclerc était seulement 7e. Et Esteban Ocon, le vainqueur du jour, était 8e. Voilà pour la grille. Donc, on l'a dit, du côté des pôles passés, eh bien, outre les 8 pôles de Lewis Hamilton, Max Verstappen en compte une seule. C'était en 2019 sur ce tracé. Sébastien Vettel en avait, lui, 3 au compteur. Et on sait que Vettel, malheureusement, a été éliminé en Q1. Voilà pour le passé. On revient au présent. Et là, on va encore, à mon avis, descendre. Hein, parce que, pour le moment, eh bien, les gros nuages noirs qui menacent tout autour de ce tracé du Hungaroring, j'ai pas le temps de vous dire que c'est l'un des plus courts utilisés dans le cadre du championnat du monde avec 4 km 381 qu'il faudra parcourir à 70 reprises demain, donc soit 306 km. Alors traditionnellement, c'est un tracé assez long et un circuit assez long, surtout que on a vu parfois des drapeaux rouges ou des périodes de safety car de virtuel ou de safety car permanent. En tout cas, Sainz c'est le plus rapide pour le moment devant Russell, Leclerc et Hamilton. Il reste encore un peu moins de 6 minutes exactement.
Et puis en plus, deux zones de DRS, une seule détection, la grande ligne droite et juste après le premier virage.
C'est un peu bizarre, t'as raison de le souligner, parce que la deuxième zone de DRS, c'est une courbe à droite en fait, qui mène sur le deuxième virage. Mais bon, on a choisi comme ça. Moi, je l'aurais vu plutôt entre en bas de la descente, là, et juste avant la cassure à gauche, le virage numéro 4.
Et on va voir des pilotes se rapprocher dans la grande ligne droite et attendre le virage pour évidemment les tenter de dépasser. On souhaite du spectacle en course. Un mot de la classique San Sebastian, puisqu'on arrive vers la fin et toujours le show d'un homme, d'un Belge en tête, Arnaud Souk.
Absolument, Remco Evenepoel qui aborde à l'instant les premières pentes de la dernière difficulté du jour, la plus difficile, Mourgil Tontora, 2 km 100 à 10,1% de moyenne et surtout avec des passages jusqu'à 19%, autant dire que ça va piquer dans les jambes, surtout après déjà 212 km accomplis pour Remco Evenepoel qui dispose de 1 minute et 12 secondes d'avance sur un duo de la même équipe, de coureurs de la même équipe, Pavel Sivakov, le français, Carlos Rodriguez, l'espagnol, tous les deux sous les couleurs du maillot Ineos Grenadiers, mais malgré leur bonne collaboration, eh bien, ils ne parviennent pas à reprendre du temps à Remco Evenepoel depuis déjà de très nombreux kilomètres. Pire, ils en perdent, ils continuent à en perdre, ils ont déjà perdu donc 1 minute et 13 secondes dans un troisième rideau. On a trois coureurs qui sont pointés à 1 minute 52, Bauke Mollema, Tijs Benoot et Simon Yates. Autant dire encore une fois que Remco Evenepoel se dirige tout droit vers sa deuxième victoire sur cette Classica San Sebastian. On va attendre quand même l'arrivée, mais dans 12 km, on devrait avoir la démonstration par l'image, par la pédale, par tout ce que tu veux, Arnaud, que pour une fois, en tout cas sur du cyclisme, le favori s'impose et sans sourciller.
Et il prend rendez-vous dans 3 semaines avec la Vuelta, qui reviendra d'ailleurs un petit peu dans là où tu te trouves, avec notamment une étape avec Bilbao et Irun. Hein.
Absolument, qui partira comme les deux autres grands tours cette année, le Tour d'Italie et le Tour de France aussi de l'étranger. Elle partira de Utrecht, en l'occurrence des Pays-Bas, enfin quand je dis de l'étranger, en tout cas d'un pays qui n'est pas le pays de résidence habituel, on va dire, de la course, le Tour d'Espagne, qui a plutôt coutume effectivement de se courir en Espagne, c'est bien normal, et qui donc va partir aux Pays-Bas, va s'exporter aux Pays-Bas pour ses premières étapes. Juste un tout petit mot quand même, Arnaud, pour dire qu'il ne faisait pas bon aujourd'hui avoir été sur le Tour de France, hein, très clairement, parce qu'on a vu que tous les coureurs, on pense à David Gaudu, on pense à Tadej Pogacar et bien d'autres comme Matej Mohoric par exemple, ont eu beaucoup de difficultés, peut-être exception notable de Bauke Mollema qui évolue actuellement en 4e position sur cette course, mais vraiment tous les coureurs qui avaient fait le Tour de France, qui avaient couru le Tour de France il y a quelques jours, étaient complètement rincés.
Ils sont humains. Et voilà, c'est ce qui les rend plus on les respecte encore plus pour ça, parce qu'on peut pas enchaîner une course aussi dure que le Tour de France, et voilà, ça les humanise un petit peu aussi, et ça ne rend que plus fort leurs exploits quand ils sont au top, ces hommes sur des vélos. Elles aussi, on a énormément de respect pour elles, ce sont les femmes, et notamment une femme qui est en tête à 15 km de l'arrivée de cette avant-dernière étape du Tour de France femme. On est dans les Vosges, Valentin Jamin.
Yannemiek van Vleuten dans le col du Grand Ballon qui a creusé son écart. Elle a maintenant 3 minutes et 17 secondes d'avance sur Demi Vollering. Elle a quasiment pris 1 minute à la coureuse néerlandaise depuis le début de l'ascension, alors que derrière il y a toujours un groupe avec des Françaises à 6 minutes de la tête de course. Il y a Juliette Labousse, alors que Evita Music malheureusement s'est fait décrocher. Elle a beaucoup travaillé pour sa leader, donc voilà, elle a dû un petit peu lâcher la tricolore. Yannemiek van Vleuten à 15 km de l'arrivée maintenant.
Merci Valentin. L'explication, la première de ce week-end en Hongrie, Grand Prix de Formule 1, qualification, la Q3, les deux dernières minutes avec tout le monde au rendez-vous, sauf Sergio Pérez. Hein.
Ah oui, sauf Sergio Pérez, effectivement. Sergio, dont on rappelait tout à l'heure qu'il figurait sur la deuxième ligne de la grille de départ, et bien là, malheureusement, il va falloir qu'il se lance dans une remontée. On peut déjà prévoir une stratégie décalée pour le pilote mexicain de Red Bull Honda. Mais pour le moment, la bataille pour la pole, et bien, elle est menée par Carlos Sainz. On rappelle que le pilote espagnol, pour le moment, ne compte qu'une seule pole position. C'était au Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone. Et cette pole l'avait conduit à une victoire. Alors certes, il avait fallu d'erreurs stratégiques de Ferrari, mais bon, en tout cas, la victoire, elle était revenue à Carlos Sainz, puisque je rappelle qu'à ce moment-là, et bien, c'était Charles Leclerc qui était au commandement. Et curieusement, chez Ferrari, on avait arrêté tout le monde, et notamment Carlos Sainz, mais pas le leader de la course, et qui avait vu passer le train ensuite, au moment où le safety car avait libéré tout le monde. Bref, pour le moment, Carlos Sainz avec 463 millièmes d'avance sur George Russell. Et c'est un peu la surprise. On peut dire que du côté de Mercedes et d'Hamilton et de Russell, on a dû pratiquer ce mot que Patrick Tambay adorait et que nous adorons aussi, c'est le sandbagging. Tu sais, ça veut dire que, en fait, on ne sait pas combien de carburant il y a dans le réservoir. Et donc, on a des performances qui sont relativement moyennes, puisque les Mercedes ont s'inquiété même pour elles. George Russell, je parle de performance sur le sec, n'était que 8e et Lewis Hamilton n'était que 11e lors de la deuxième séance d'essai libre. Et bien là, on les voit sortir du bois, c'est peu de le dire, avec un Russell très agressif au deuxième rang, Lewis Hamilton 5e et des Mercedes, ma foi, qui en tout cas sur l'exercice du tour lancé sont en mesure de rivaliser, en tout cas avec les Red Bull, puisque pour le moment, et bien Verstappen n'est que 8e. Alors c'est maintenant que ça va jouer dans ce dernier assaut. On est entré dans la dernière minute et même dans les dernières 30 secondes, c'est dire que Carlos Sainz, voilà, il améliore. 28 secondes et 12 millièmes. C'est lui l'homme le plus rapide dans le premier secteur. Le deuxième est pas mal non plus. Il est en moins de 28 secondes. Et puis derrière, Charles Leclerc amélioré. Mais je crois que pour Charles, eh bien, ce sera au mieux la deuxième place. Charles termine à 62 millièmes pour le moment de Carlos Sainz avec un meilleur secteur, le troisième secteur. Mais ça n'est pas assez. Est-ce que Charles Leclerc va être en mesure de conserver cette deuxième position? Carlos Sainz, une 17-421. Il repousse Leclerc à 146 millièmes. On attend maintenant la perte de Russell. Russell 28 et 38 millièmes en amélioration dans le premier secteur. La troisième place, et bien elle est pour Norris pour le moment. Lando Norris, le jeune britannique de McLaren, elle s'impose sur la troisième position alors que Russell est en train d'en terminer pour le moment avec le tour. On attend également les pertes, mais je vois que Lewis Hamilton n'est pas en amélioration pour le moment. Valtteri Bottas lui aussi a signé ses performances.
Et Verstappen non plus hein.
Non, et le drapeau à damier est en train de s'abattre, et tu as raison de le souligner. Verstappen, il y a un problème du côté des Red Bull, puisqu'il devrait terminer au 10e rang. Ben oui, je crois que ça y est. Le drapeau à damier est tombé. Eh bien, c'est la pole
et Russell
de George Russell à l'instant. Une 17-377. Remarquable performance du jeune pilote britannique de chez Mercedes qui confirme l'amélioration des performances des Mercedes. Extrêmement étonnant. Je rappelais leur perf tout à l'heure. On était loin du compte. Eh bien, George Russell la réalise pour. Il a moins de 70 départs, 71 départs en Grand Prix. Eh bien, c'est la première pole de sa carrière de pilote de Formule 1. Magnifique pour George Russell qui devance Carlos Sainz. Lui n'a pas signé la deuxième pole de sa carrière pour 44 millièmes exactement. Charles Leclerc devra se contenter de la deuxième ligne avec le troisième temps à 190 millièmes. C'est très serré, hein, Arnaud. Et puis on trouve ensuite Lando Norris qui s'était montré rapide sur le sec également avec la première des McLaren. Et Esteban Ocon est un excellent cinquième dans les toutes dernières secondes avec la première des Alpines. Il aura à ses côtés son équipier Fernando Alonso qui confirme la progression de l'écurie française, et c'est un vrai bonheur. Lewis Hamilton est 7e, Valtteri Bottas 8e, Daniel Ricciardo 9e avec la 2e des McLaren, et Max Verstappen, et on souligne lourdement un triste 10e. Il a dû avoir un problème chez Red Bull.
Et les cris de joie de George Russell à la radio pour cette pole, la mine basse, la tête basse pour Max Verstappen, seulement en 10e. Première fois qu'une voiture autre qu'une Ferrari ou une Red Bull signe la pole position cette saison, et peut-être une victoire à venir pour Mercedes. Là aussi, ce serait une première qu'une voiture autre qu'une Ferrari ou une Red Bull s'impose cette saison. Pourquoi pas relancer un petit peu de suspense, même si l'avance de Red Bull et Verstappen est large. Mais en tout cas, on va assister à une très belle course demain. Va y avoir de l'enjeu à tous les étages avec Max Verstappen, le leader du championnat, 10e. Merci beaucoup Jean-Luc. La course, c'est évidemment à suivre avec toi demain, départ à 15h. L'intégral sport se poursuit sur RMC en compagnie de Simon Dutin. Très bonne soirée sur RMC.
RMC Intégral Sport.